Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Comme d'habitude à la technique, mon complice Léo, et aujourd'hui je suis en compagnie d'une stagiaire de l'école de journalisme de Toulouse, Maëva. Votre serviteur, Andrés Atenza. En direct du studio Gisèle Halimi, aujourd'hui parmi nous, Madame Émilie Taberly, déléguée régionale de l'URAGE, Union régionale pour l'habitat jeune. Madame Taberly, soyez la bienvenue.
Merci.
Le logement des jeunes, c'est peut-être la prochaine bombe sociale. Madame Taberly, vous qui êtes la déléguée régionale pour le logement des jeunes, les jeunes ont du mal à se loger dans la région Occitanie. Plus de 120 000 étudiants, plusieurs antennes, Rodez, Albi, universitaires, les jeunes souffrent. Il y a vraiment un problème. Et les résidences habitat jeunes, même si je sais qu'un certain nombre de villes accueillent ces résidences habitat jeunes, Béziers, Balma, Blagnac, Cahors, Carcassonne, Castelnaudary, Montauban, ben, il n'y en a pas assez. Que se passe-t-il? Prochaine bombe sociale?
Oui, alors la bombe sociale, c'est peut-être pas la problématique du logement des jeunes, mais c'est la problématique du logement de façon générale. Et malheureusement, c'est pas vrai qu'en Occitanie, mais c'est vrai sur tout le territoire national. L'ensemble des acteurs le disent maintenant, hein, pas uniquement ceux du logement social, mais aussi de la promotion immobilière, mais aussi les sociologues qui observent les situations. Aujourd'hui, on a un constat, un état des lieux partagé sur la crise extrêmement aiguë qu'on vit en France, mais pas que en France d'ailleurs, hein. C'est le cas sur tout le territoire européen en réalité.
Il semble que le logement, il y ait une problématique européenne forte. Peut-être quelques chiffres, paraît-il qu'on est passé pas loin du krach immobilier en 2022 avec l'envolée des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter son appartement, on ne peut pas construire. Accéder à la propriété, ça devient très compliqué en Europe.
Oui, c'est très compliqué en Europe et certainement d'autant plus en France, parce qu'en France, la crise, elle est double en fait. C'est une crise qui est d'abord structurelle, c'est une crise de manque d'offres de logement. Aujourd'hui, c'est le premier poste de dépenses des ménages, le logement, ce qui n'était pas du tout le cas il y a de ça 20 ans, où c'était plutôt l'alimentation. Aujourd'hui, c'est devenu le premier poste de dépenses des ménages. Et à cette crise structurelle s'est ajoutée une crise conjoncturelle, avec notamment la guerre en Ukraine et la flambée des taux d'intérêt qui assèchent la capacité des personnes à emprunter pour pouvoir acheter leur logement. Il y a aussi la flambée des taux d'intérêt sur le logement social. Quand on construit du logement social, on emprunte au taux du livret A auprès de la Banque des Territoires. Sauf que ce livret A, ce qui est très bien pour les gens qui ont un livret A, le taux a beaucoup augmenté. C'est moins bien quand on construit du logement social parce qu'il y a donc eu cette flambée des taux d'intérêt.
Des difficultés dans le logement social et logement très social, c'est ça, quoi. Il y a vraiment une distinction, mais qu'il faut regarder de près, quoi. Est-ce que les résidences habitat jeunes, qui en fait sont des anciens foyers, des jeunes travailleurs. Alors pourquoi on nomme ça aujourd'hui résidence? Il n'y a plus de jeunes travailleurs, ça n'existe plus, ce sont que des étudiants.
Si, il y a bien évidemment, il y a toujours des jeunes travailleurs, sauf qu'il n'y a pas que des jeunes travailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que la nomenclature a changé il y a plus de 15 ans maintenant. Parce que ça laissait croire, foyer de jeunes travailleurs, qu'il y avait justement que des travailleurs dans les résidences habitat jeunes, alors que pas du tout. Alors, majoritairement, c'est quand même des actifs qu'on a encore aujourd'hui. C'est plus de 70% des jeunes en Occitanie qu'on accueille qui sont effectivement salariés. Mais il y a aussi des jeunes étudiants. Et puis, il y a aussi des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en démarche d'insertion professionnelle et qui n'ont pas encore de situation stabilisée ou de contrat de travail. Donc, résidence habitat jeunes, c'est beaucoup plus englobant que ne pouvait l'être foyer de jeunes travailleurs, qui est par ailleurs un peu connoté dans l'inconscient collectif. On a l'impression de voir des grandes tours un peu vétustes quand on dit foyer de jeunes travailleurs.
Il y a eu ça quand même.
Il y a eu ça.
Il faut reconnaître dans certaines villes.
Tout à fait. C'est toujours le cas, notamment en Île-de-France. Beaucoup moins en Occitanie. Il y a eu beaucoup de réhabilitation, de rénovation. Aujourd'hui, les nouvelles résidences qu'on construit ne ressemblent plus du tout à ça.
Alors, combien de résidences habitent à Jeunes dans la région Occitanie et dans votre réseau URAGE ?
On a 68 résidences habitat jeunes en Occitanie et 7 services logements parce qu'on ne fait pas que du logement collectif. On appréhende la question et les problématiques de logement jeune de façon globale, donc bien évidemment en les logeant dans les résidences qu'on gère, mais aussi en informant, en orientant les jeunes pour accéder au parc public, au parc privé, sur chacun des territoires. Et donc pour ça, on a développé des services qui permettent de faire de la médiation, voire de l'intermédiation locative entre jeunes et propriétaires.
C'est votre boutique logement, c'est ça ? Vous appelez
boutique
logement ? Tout à fait. Logement.
Tout à fait.
Donc c'est un guichet, un jeune, plus ou moins jeune, de 16... Vous accueillez des jeunes de quel âge ? De 16 à 30 ans ?
Exactement. Voilà. 16 à 30 ans de tout
on
profil. Là.
Voilà, de tout profil. Alors, URAGE, ça a été créé quand, cette union régionale ? J'imagine qu'il y a aussi une union nationale.
Oui, tout à fait. Il y a une union nationale et il y a des unions régionales dans chacune des régions de France. En Occitanie, elle a été créée en 1979, ce qui est aussi mon année de naissance. C'est tout à fait comme coïncidence, mais bon, c'est le cas. Donc, elle a exactement 44 ans en Occitanie. Elle est beaucoup plus ancienne sur le réseau national. En fait, l'émergence des foyers de jeunes travailleurs, donc historiquement, viennent de deux courants. Le premier, c'était les entreprises, notamment les entreprises du bâtiment qui voulaient loger leurs apprentis. On a encore des traces très concrètes hein, de cette histoire en région parce qu'on a beaucoup de résidences en Occitanie qui ont été créées à l'initiative de la Fédération du Bâtiment.
De la Fédération du Bâtiment, c'est ça.
Ou des chambres de métiers, par exemple.
Ou des chambres de métiers.
C'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis la deuxième histoire, c'était plutôt les congrégations religieuses qui voulaient loger les jeunes filles en errance. Donc on est, voilà. Et encore une fois, ça aussi, on en voit encore les traces aujourd'hui. Bien évidemment, toutes les résidences et toutes nos associations sont parfaitement laïques. Cependant, on a encore certains de nos bâtis qui sont propriétés de congrégations religieuses. Donc on voit encore les traces, même en Occitanie, de ces deux origines historiques de notre mouvement.
Alors, 68 résidences, on a cité quelques-unes, Auch, Albi, Béziers, Balma, Blagnac, Figeac, Castres, Narbonne, Plaisance-du-Touche, Rodez, donc Saint-Gaudens, etc. Et bien entendu, Toulouse. Ça représente combien de places ? Ou combien de lits ? Combien de T1, T2 ? Ou combien de studios ?
On a un peu moins de 3400 logements dans lesquels on loge aujourd'hui 8000 jeunes par an.
8000 jeunes.
8000. Et on accueille dans les services logements ou même dans les résidences pas loin de 12 000 jeunes par an sur la région Occitanie.
Un jeune qui loge dans une résidence habitat jeune, il reste un an, deux ans, trois ans, quelle est la durée du logement classique où il vient simplement une année et ensuite il va dans le privé ?
La durée moyenne de séjour aujourd'hui, enfin sur notre dernier observatoire, c'est de 10 mois. Il faut savoir que ces durées de séjour ont pas mal augmenté, ce qui n'est pas un bon indicateur en réalité. Ça veut dire que malgré toutes les actions qu'on peut mener en interne de nos associations pour accompagner l'accès au parc de logements autonomes, eh bien, les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver un logement dans le parc de droit commun, dans la mesure où leur situation s'est beaucoup précarisée. Hein. Nous, on l'a observé très, très nettement dans nos résidences. On a nos taux d'occupation qui ont beaucoup augmenté aussi. Hein. C'est, bon, c'est une bonne chose, hein, mais les résidences habitat jeunes, c'est pas du logement de longue durée. C'est du logement transitoire et c'est pour ça d'ailleurs que toute l'offre est construite comme ça. On peut rentrer et sortir en moins de 15 jours. Tous les logements, ce sont des meublés. On n'a que des logements adaptés au profil des jeunes, profils qui sont caractérisés par des mobilités. Nous, on considère que c'est pas une bonne stratégie de saucissonner les jeunes par statut, comme c'est fait aujourd'hui dans les politiques publiques d'ailleurs, hein, parce que vous verrez que énormément de politiques publiques sont à destination des étudiants, et c'est heureux parce qu'il faut les soutenir. Cependant, il n'y a pas que des étudiants dans les jeunes. Il y a aussi des actifs, il y a aussi des jeunes qui cherchent un travail. Voilà. Donc, nous, on ne saucissonne pas les jeunes par catégorie, mais par profil de mobilité. Parce que ce qui, par contre, est commun aux jeunes, c'est souvent l'injonction à la mobilité pour trouver un emploi, pour aller faire un stage, pour aller faire sa formation. Et donc, toute l'offre de logement qu'on développe, c'est adaptée à ces profils de mobilité. C'est pour ça qu'on rentre et on sort rapidement. Il n'y a aucune ouverture de compteur, par exemple, et que ce sont que des logements qui sont meublés.
Ces logements meublés avec la possibilité de faire de la cuisine ou c'est du collectif, il y a un self, vous pouvez rentrer un peu dans le détail.
L'immense majorité.
Où il y a un peu de tout, peut-être.
Alors, il y a
une offre très diversifiée.
Oui, c'est encore diversifié. Cependant, on est quand même... majoritairement dans des logements individualisés, c'est-à-dire des petits studios. Aujourd'hui, sur toutes les résidences qu'on crée, l'offre majoritaire, c'est plutôt du 20 mètres carrés, tout équipé. Même si on fait encore des logements un peu plus grands, comme des T1 bis ou des T2, notamment pour les familles monoparentales, qui sont un profil qu'on avait beaucoup moins par le passé.
Et aujourd'hui, augmente. Quoi.
Exactement. Aujourd'hui, augmente, mais aussi pour des colocations, notamment pour les publics apprentis, qui s'y prêtent assez bien. Donc, on a une gamme, mais majoritairement, on est quand même sur du petit logement, 20 mètres carrés, tout équipé, même si on a encore des résidences qui d'ailleurs, pour la grande majorité, sont dans des opérations de restructuration globale où on a encore de la restauration plutôt en cuisine d'étage. Mais ça, c'est aujourd'hui une minorité de l'offre que nous avons.
Comment crée-t-on une résidence Habitat Jeune ? Voilà, demain, je suis une association, je vais voir le banquier, j'ai un architecte, je lance, ou c'est le préfet qui m'autorise, c'est la cohésion sociale, c'est l'État. Vous pouvez nous dire comment les associations, parce que vous avez un réseau de plusieurs associations adhérentes à l'URAJ, Occitanie. Alors dites-nous si on rentre dans le détail.
C'est très très compliqué de créer une résidence Habitat Jeune, je ne vous le cache pas.
Il y a plusieurs CERFA.
Alors, ça va même plus loin que ça. Ça va
donc,
même plus loin que ça.
On va dire que le choc de simplification pour faire du logement social n'est pas encore là.
Ah non, on en est très très loin. D'autant plus en Habitat Jeune, parce qu'en fait, on est au croisement d'un certain nombre de réglementations, toutes plus contraignantes les unes que les autres. Donc, c'est du logement, donc bien sûr le code de la construction et de l'habitat, mais c'est aussi des établissements sociaux et médico-sociaux avec tout ce qui va avec, et notamment l'autorisation. Aujourd'hui, on ne peut pas créer s'il n'y a pas d'appel à projet émis par l'État.
Donc, c'est l'État qui lance un appel à projet.
Tout à fait.
Et donc, en région, c'est le préfet, pour être clair.
Oui.
D'accord.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, on a la dernière réglementation qui est celle de la jeunesse et du Code de l'action sociale et des familles. Donc, ça fait aussi la richesse des actions qui sont menées dans chacune des résidences, mais c'est aussi une vraie complexité. Parce que donc pour créer une résidence, il faut effectivement qu'il y ait un appel à projet de l'État. Mais pour qu'il y ait cet appel à projet de l'État, il faut bien évidemment qu'avant, il y ait détermination du besoin sur un territoire donné, nécessaire à justifier la production d'une offre nouvelle. Que cette justification du besoin, elle soit partagée par l'ensemble des parties prenantes
de
ce territoire.
Mais qui fait l'étude ? C'est la puissance publique qui fait l'étude des besoins sur un territoire ?
Non,
on demande plutôt à vous-même, comme URAJ, de faire une étude, et à d'autres cabinets, j'imagine.
Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas l'État qui va conduire ce type d'étude. En général, ça se passe assez simplement, en fait. C'est-à-dire que ce sont les maires, dans la grande majorité des cas, qui sont interpellés par les centres de formation, par les entreprises de leur territoire, par les structures qui interviennent sur la question, sur le social, je pense notamment aux missions locales, et qui se rendent bien compte qu'il faut pouvoir agir sur la question du logement des jeunes. Et à ce moment-là, ils réalisent des études en missionnant soit des bureaux d'études, soit effectivement nous, à l'Union régionale, on conduit des études pour les collectivités locales, pour déterminer le besoin quantitativement, mais aussi qualitativement.
Et également pour vos adhérents. Vous pouvez travailler pour vos adhérents.
Tout à fait. Nos adhérents qui ont des projets d'extension, notamment, font régulièrement appel à nous pour pouvoir déterminer quelle est la nature de l'extension et comment répondre au mieux aux besoins déterminés du territoire.
Ce sont plutôt les grandes associations qui se positionnent sur ces appels d'offres ou des associations dites moyennes de l'économie sociale et solidaire, du social médico-social qui se positionnent. Vous avez de tout peut-être aussi ?
Il y a vraiment de tout, ça dépend vraiment du territoire sur lequel se fait le projet, sachant que les associations, elles n'attendent pas l'apparition de l'appel à projet, parce qu'en réalité, l'appel à projet est tellement exigeant dans sa réponse qu'il faut déjà avoir un projet extrêmement bien avancé pour pouvoir...
Donc il faut anticiper,
vous êtes
Il faut énormément anticiper.
Oui.
Y compris sur un territoire, disant je vais dans telle ville...
Oui. Et dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt les collectivités locales qui saisissent le préfet en lui demandant de réfléchir à la possibilité de faire émerger un appel à projet plutôt que l'inverse.
Donc ensuite, appel à projet, ça veut dire qu'il y a concurrence associative. Bon, c'est la loi du marché, pourrait-on dire, depuis 2002, les associations se positionnent. Et les associations, comment elles financent la construction ? Ils doivent aller voir un bailleur social et il faut qu'ils demandent des prêts, j'imagine à la banque de territoire ou à n'importe quelle banque d'ailleurs, non peut-être ?
Oui, alors oui et non. En général, on ne fait aucun prêt bancaire sur les opérations de création. Il faut impérativement en passer par un maître d'ouvrage agréé. Donc, dans l'immense majorité des cas, ce sont des bailleurs sociaux avec qui on travaille. Mais on a certaines de nos associations qui, elles-mêmes, disposent de l'agrément maîtrise d'ouvrage. C'est le cas de l'ANRAS, par exemple, qui est adhérent chez nous, mais c'est aussi le cas de la Fédération Compagnonique, par exemple, ou d'autres associations. Et ensuite, les plans d'investissement sont constitués de subventions. D'abord, hein, la région a une intervention, par exemple, en subvention sur nos opérations. C'est le cas de l'État aussi, parce que c'est du logement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du logement très social. Donc, il y a une aide de l'État encore sur le logement très social en subvention. Les collectivités locales, comme conseils départementaux les collectivités, pour le coup, locales, mairies, intercommunalités, souvent... sur une politique volontariste, c'est-à-dire ayant conscience de l'enjeu pour le territoire de développer du logement des jeunes, parce que quand on développe du logement des jeunes, ça va avoir un impact aussi sur le développement des formations, sur le développement économique, parce que ça vient aussi des entreprises qui révèlent cette problématique-là en disant on ne peut pas recruter parce qu'il n'y a pas d'offre.
Il n'y a pas d'offre logement.
Exactement.
Pour les apprentis ou pour les jeunes professionnels.
Tout à fait. Donc, ayant bien conscience de ça, il y a aussi des communes qui s'impliquent et qui, de manière volontariste, apportent des subventions à l'investissement. Les CAF également soutiennent dans le cadre de la politique familiale que j'indiquais tout à l'heure. Et puis, il y a des volants de prêts. Les prêts, essentiellement, c'est Action Logement. Donc, au titre de la participation des employeurs, l'État également, et puis la Banque des Territoires. C'est ça, en fait, l'État. C'est via la Banque des Territoires.
Alors, je suis jeune, je postule dans une de vos résidences parce que je travaille. Ça me coûte combien ?
Ça va dépendre des résidences et ça va dépendre des territoires parce que...
Moyenne peut-être, ou donner quelques exemples.
Je vais vous donner des exemples. Je l'ai dit, c'est du logement très social, c'est-à-dire que c'est dans le logement social l'offre qui permet les redevances, parce que chez nous c'est des redevances que les jeunes payent et non pas des loyers. C'est quoi la différence entre une redevance et un loyer ? Dans la redevance, tout est compris, toutes les charges sont comprises, il n'y a absolument rien à payer en plus que la redevance. Donc ces redevances-là sont les plus faibles de toute l'offre de logement qui existe. Et par ailleurs, elle est solvabilisée par l'APL qui est majorée et perceptible dès le premier mois dans nos résidences, dans la mesure où, comme j'ai indiqué, c'est pour être adapté au profil de jeunes.
Et c'est souvent l'association gestionnaire qui reçoit l'APL ?
Tout à fait, et qui ne fait payer que le reste à charge, aux jeunes. Aujourd'hui,
Reste à charge serait de combien ?
Voilà.
Allez, une fourchette.
Une fourchette. Sur l'entrée de gamme, c'est-à-dire un T1, les logements les plus petits, pour un jeune qui aurait l'APL maximum... Donc, je pense notamment aux apprentis, par exemple, qui, pour l'immense majorité des cas, dans la mesure où ils ont un revenu qui est un pourcentage du SMIC, font partie des plus petits revenus, à moins de 50 euros par mois.
On peut avoir un studio.
Exactement.
Ou un T1.
Tout à fait.
Ah, c'est du très social, hein.
Tout à fait.
Voilà, je comprends aisément que les jeunes...
Tout à fait. Après, il faut bien...
Il y a une vraie liberté. On peut aller, venir dans ces résidences sans problème. On peut rentrer. Vous savez, les jeunes font souvent la fête. Je ne dis pas qu'on fait que la fête. Même les vieux font la fête. Mais quand même, on dit, je peux rentrer à 1h, 2h du matin. Si je ne fais pas de bruit, je suis un bon... Oui, c'est possible.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Tout dépend. Parce que les résidences qui accueillent des mineurs, les 16-18 ans, il y a des règlements particuliers pour eux qui sont souvent d'ailleurs co-signé par les parents. Par contre, pour tous les majeurs, c'est du logement privatif. Par contre, on n'accepte pas les animaux.
D'accord.
Parce que ça génère notamment, sur le vivre ensemble, c'est très compliqué, les animaux. Et puis sur la dégradation aussi, potentiel de logement, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Mais par contre, oui, bien sûr, on peut rentrer et sortir à n'importe quelle heure. Et puis, quand vous parliez du logement très social, il faut bien avoir en tête quand même que les jeunes sont beaucoup plus pauvres que le reste de la population. Leur taux d'effort net vis-à-vis du logement, c'est le double que l'ensemble de la population. Il y a un chiffre que je trouve très parlant en Occitanie. Quand on regarde les jeunes travailleurs, donc a priori ceux qui ont un contrat de travail, ceux qui sont donc potentiellement plus à l'aise que d'autres, plus d'un sur deux sont travailleurs pauvres dans notre région. Plus d'un sur deux. Ce qui est quand même un chiffre, me semble-t-il, énorme. Et ceux qu'on accueille, les jeunes qu'on loge aujourd'hui dans nos résidences, on en a plus de 80% qui sont en dessous du seuil de pauvreté.
Et vous avez observé que les inégalités se creusent notamment en ce qui concerne les jeunes. En tout cas, beaucoup d'associations le disent, mais vous aussi, dans le logement, vous l'observez également.
Oui, c'est ce que je vous expliquais. On a beaucoup plus, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à accompagner les jeunes vers l'accès au logement de droit commun parce que leur situation s'est précarisée. Et elle s'est précarisée à tous les niveaux. On a aussi eu une explosion des problématiques de santé mentale des jeunes qu'on accompagne. Et quand on parle de santé mentale, on peut avoir en idée des troubles importants, etc. Non, on a aussi des jeunes...
C'est dépression.
Voilà, on a aussi des jeunes qui ont des troubles de santé mentale qui sont légers mais réels, et c'est pas forcément les jeunes les plus en difficulté qu'on accueille qui ont ces problématiques-là. On a aussi des jeunes en période d'essai de CDI à Airbus qui peuvent rencontrer des problématiques de santé mentale. C'est vraiment des choses qui ont énormément explosé. Après, cette observation, on la fait pas que nous, hein. Quand on échange avec les autres organisations qui travaillent auprès de la jeunesse, c'est vraiment des choses qui sont partagées aujourd'hui.
Mais en particulier, la résidence Habitat Jeune ou la résidence, elle fait quoi pour accompagner ces jeunes? Qui a un projet d'éducation populaire, d'émancipation, vous souhaitez que ce soit des vrais citoyens. Ce n'est pas des sous-citoyens.
Ah, surtout pas.
Surtout pas.
Hein. Surtout pas. Et d'ailleurs, j'expliquais que toutes nos associations et nos résidences sont adaptées aux jeunes en termes de logement. Sauf que c'est pas notre ambition finale, en réalité, le logement. Le logement, pour nous, c'est uniquement un moyen pour accompagner les jeunes vers l'autonomie et l'émancipation. Donc, on est... fortement ancré dans les valeurs de l'éducation populaire. Et pour ce faire, on va actionner tout ce qui fait levier à l'émancipation. Donc, bien évidemment, immédiatement, on pense à la question de l'insertion sociale et professionnelle, hein, sur laquelle on travaille, les problématiques de santé. Mais on va travailler aussi sur la question de la citoyenneté, de la culture, du sport. Et pour ce faire, on a des équipes diplômées, hein, professionnelles, dans chacune de nos résidences, qui sont et des travailleurs sociaux et des animateurs, pour faire vivre la résidence, travailler sur la question du vivre ensemble et, comme je le disais, travailler à tout ce qui fait levier d'émancipation de la jeunesse.
Avant d'aller plus loin, écoutez, je vous propose une petite pause musicale assez intéressante. C'est un crooner et une icône, un duo assez sympathique, improbable d'ailleurs. Allons-y.
Disparaître à ses yeux ne plus donner signe. Avant de ne plus pouvoir revenir à l'arrière,
avant qu'il soit trop tard pour éviter la guerre,
avant de dire je t'aime, savoir partir quand
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, toujours avec Émilie Taberly, notre déléguée régionale de l'URAJ, Union Régionale pour l'Habitat Jeune, et ma jeune stagiaire de l'école de journalisme, Maëva. Vous souhaitez poser une question à Madame Taberly?
Oui, avec plaisir.
Ou un commentaire? Allez-y.
Oui. Je voulais savoir si moi, demain, je suis étudiante, comment je fais pour avoir accès à toutes vos aides?
Alors, déjà, au niveau de l'Union régionale, on a un site internet qui présente l'ensemble de nos résidences et sur lequel il y a un petit formulaire de demande en ligne, de pré-demande. Chacune de nos associations ou chacune des résidences dans lesquelles vous ferez cette demande, parce qu'on peut, c'est des choix multiples, reviendront vers vous pour vous demander un dossier un peu plus complet. Après, je vous cache pas qu'on a énormément de demandes. Aujourd'hui, on arrive à répondre à un peu moins d'un quart des demandes qu'on reçoit. Et quand on regarde uniquement les deux métropoles que sont Toulouse et Montpellier, on arrive à répondre à moins d'un cinquième des demandes. Ce qui montre bien qu'il y a quand même un gros, gros besoin. Mais par contre, vous aurez une réponse très rapide parce qu'il y a des commissions quasiment chaque semaine qui se réunissent. Et les critères de sélection, le premier, c'est la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir l'ensemble des profils, si justement, alors les étudiants sont pas forcément les prioritaires, surtout ceux qui peuvent bénéficier d'un soutien familial. Par contre, si vous êtes étudiante et que vous n'avez pas de soutien familial, bien évidemment, on étudiera votre demande, sachant qu'en plus, on sait aujourd'hui qu'en région, on a quasiment 40% des étudiants qui travaillent, donc pour qui c'est compliqué. Par contre, voilà, si on a beaucoup d'étudiants qui ont été accueillis récemment, on va arrêter d'accueillir des étudiants et on va plutôt prendre des jeunes qui sont au RSA ou alors des jeunes qui sont en contrat de travail ou des apprentis, par exemple. Voilà, et puis il faut quand même avoir un minimum de ressources, à peu près autour de 500 euros par mois, pour pouvoir s'acquitter du reste à charge. Même si je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas énorme, il faut quand même pouvoir s'en acquitter. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, accueillir des jeunes sans ressources. On n'a pas de solution aujourd'hui pour ces jeunes-là, même si on y réfléchit, hein, il y a un certain nombre de dispositifs, notamment je pense à l'ALT, hein, qui permet d'avoir des jeunes qui sont beaucoup moins solvables que les autres. Mais c'est vrai que sur l'immense majorité de notre parc aujourd'hui, on n'a pas de réponse pour ces jeunes-là.
C'est souvent l'accueil d'urgence.
Exactement.
Ou Emmaüs, ou des choses comme ça. Quoi. Le rapport d'Emmaüs, encore une fois, publié récemment, montre que le logement... C'est très difficile dans notre pays, on ne s'améliore guère, quoi, malheureusement, sur cette question. Revenons au réseau d'éducation populaire, émancipation, formation à la citoyenneté. Dans votre charte de l'URAJ, mais j'imagine que c'est une charte nationale, pour d'ailleurs au niveau
l'UNAJ.
Voilà, l'UNAJ, établir et faire progresser ensemble une société confiante en son humanité. Alors, confiante, donc vous convoquez la confiance, vous convoquez l'humanité, ça manque cruellement, c'est pour cela que vous faites ce constat et cette charte est nécessaire.
Je pense que ça manque d'autant plus quand on parle des jeunes. Les jeunes, c'est souvent soit des sauveurs, des héros, soit des criminels. C'est des héros quand c'est l'environnement, quand il y a eu tous les mouvements. Les jeunes, c'est les héros. Mais alors, à ce moment-là, c'est les héros, mais sur qui on fait peser une responsabilité de dingue. Hein. C'est-à-dire, c'est à eux de relever la situation. Et puis, ou alors, ce sont des criminels. Quand ça a été le Covid, les jeunes sortaient pour se retrouver. Quel criminel. Donc, je pense que, en termes de confiance, on est quand même très loin. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'on entend, notamment de la relation des jeunes au milieu du travail. Je pense qu'il y a quand même un fossé entre les perceptions et la réalité, où on entend beaucoup, hein, moi je l'entends beaucoup dans énormément d'instances où je siège, les jeunes ils ont plus envie de travailler, c'est terminé, ils s'engagent plus, bon.
On a l'impression qu'on désespère de cette jeunesse, alors que ceux et celles qui travaillent, qui fréquentent les jeunes au quotidien, tout ça c'est encore du fantasme, quoi. C'est
tout à fait.
Des légendes urbaines, quoi.
Tout à fait. C'est
quand nous étions jeunes, on était rebelles, on avait envie de transformer le monde, on avait envie d'une société plus juste, plus égalitaire. C'est la même chose aujourd'hui, non ?
Oui, tout à fait. Et puis, sur le rapport au travail, moi, il y a quelque chose que je trouve assez frappant, hein, c'est que ça fait des années et des années, quand on regarde les chiffres INSEE, on se rend bien compte que l'immense majorité des jeunes, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils sont sur des contrats précaires. Ça fait des années et des années.
Ça fait des années qu'on les
sent. Comment on peut leur reprocher aujourd'hui d'avoir accepté cette donnée et de ne pas viser à tout prix le CDI ? C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on leur reproche aujourd'hui, ah ben non, je comprends pas, ils veulent pas un CDI, mais parce qu'ils ont accepter, enregistrer le fait que ça fait des années que, dans tous les cas, c'était très peu accessible pour eux.
D'ailleurs, les études du CEREC, qui travaillent sur la professionnalisation, sur des cohortes de 100 000 personnes qui sont interrogées, on voit bien, ils ont intériorisé, y compris la crise. Donc, en intériorisant la crise, ils ont des logiques d'acteurs, très correctement, ils savent ce qu'ils font. Et malgré tout, on les pointe du doigt.
Voilà. Tout à fait.
Non, je ne désespère pas de notre jeunesse. Vous non plus.
Ah ben non, 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 au contraire, au contraire.
Alors, Chartres, une société confiante en son humanité, est-ce que vos 25 associations adhérentes font également, participent, pourrait-on dire, de faire vivre cette charte et la façon, en tout cas, dans les projets dits associatifs, est-ce qu'on retrouve, étant donné qu'ils sont adhérentes, ils sont adhérents à votre association, ils doivent en principe le décliner d'une façon ou d'une autre. Vous observez que cela se fait volontiers et que toutes les associations adhérentes aujourd'hui sont, pourrait-on dire, travaillent de concert à cette question de l'émancipation et la citoyenneté ? C'est pas du tout pour pointer.
Non, mais moi, je considère pas ça comme une question piège, ouais. Parce que moi, j'en suis convaincue, même si on a des associations gestionnaires extrêmement différentes les unes des autres. On a des grosses associations, plutôt du champ du social ou du sanitaire et social. C'est le cas, par exemple, de l'ENRAS, mais c'est le cas aussi de l'UCRM sur Toulouse. On a aussi les Compagnons du Devoir ou la Fédération Compagnonique qui est adhérent chez
sur
nous.
Sur Montpellier, vous avez qui ?
Sur Montpellier, on a une association qui, pour le coup, elle, est en mono-activité Habitat Jeune, même si c'est une très grosse association qui s'appelle Habitat Jeune Montpellier, qui gère aujourd'hui 8 résidences Habitat Jeune et une boutique logement. Donc, c'est une association d'une taille relativement importante, mais qui reste quand même uniquement ciblée sur l'activité
Habitat Jeune.
Et les jeunes, tout
Alors,
à fait.
En parcourant votre site et en préparant cette émission, je disais, c'est Auch, Albi, Béziers, Castres, Figeac, Narbonne, il n'y a rien à Mende. Vous avez oublié un département, c'est trop éloigné, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de professionnels.
Alors déjà, je pense qu'on a un boulevard de création potentielle en Occitanie parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes auxquelles on ne répond pas. Et puis par ailleurs, on est sur un territoire où l'offre de logement, et notamment de logement social, a beaucoup de retard par rapport au reste de la France.
Il manque combien de places ? Est-ce qu'on a une idée si on fait ça à la louche en Occitanie ?
Oui, alors sur l'Habitat Jeune, je serais bien incapable de vous le dire dans la mesure où on fait de la dentelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement sur des grosses métropoles, on va aussi sur des tout petits territoires ruraux sur lesquels on peut travailler. Là, c'est le cas en ce moment, par exemple, dans le nord du Gers, où on travaille sur un projet d'une trentaine de logements. Donc on fait vraiment de la dentelle. Et puis pour répondre plus exactement à votre question sur la Lozère, bon, la Lozère, c'est pas un territoire extrêmement peuplé, ni le département où il y a le plus de jeunes, mais il y a tout de même du besoin. On a réalisé sur ce territoire, il y a quelques années, une étude de besoin qui a mis en avant un volume d'offres, en tout cas, qu'il faut développer sur ce département. Et aujourd'hui, on a des porteurs de projets locaux qui s'en sont saisis. Donc, il y a un projet en réflexion. Il y a un projet en réflexion.
Alors, quels sont les projets ? Alors, bien entendu, il y aura des appels à projets lancés par la puissance publique. Mais si on essaie de balayer rapidement pour l'ensemble des 13 départements de la région Occitanie,
oui.
Les projets, c'est à quel endroit seront-ils positionnés ? S'il y a quelque chose qui émerge, ça serait où ?
Alors, comme je l'expliquais, on a aujourd'hui un territoire sur lequel il faut... Je lève les yeux parce que je regarde la carte de l'Occitanie.
La carte occitanie qui est affichée dans notre studio.
Exactement. Pour pas oublier
c'est
un territoire.
C'est une grande région, hein.
C'est une très, très grande région, oui, oui. On a aujourd'hui plusieurs projets. On a sur le Tarn, d'abord, il y a un gros projet de restructuration lourde et d'extension qui devrait être livré, je pense, sous une année. On a deux projets aussi de création à Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, et à Perpignan, qui sont en cours de construction.
Alors, ça s'adresserait plutôt pour les travailleurs saisonniers, par exemple ?
Sur Argelès, tout à fait. C'est plutôt ciblé sur les saisonniers. Et puis sur Perpignan, non, c'est tout jeune, en fait. Hein, tout profil jeune. De jeune, parce qu'on a beaucoup de demandes.
C'est un département pauvre, hein.
Et c'est un département extrêmement pauvre, tout à fait.
On oublie que Perpignan, c'est une ville pauvre.
Tout à fait.
Voilà.
On a également des projets en réflexion dans le Gard, sur Alès. On a des projets dans le Gers, sur l'île Jourdain, sur Nogaro, sur Florence. On a des projets en réflexion sur l'Aude, à Castelnaudary, à Lézignan-Corbière. J'ai peur d'en oublier parce qu'on en a beaucoup. On en a sur Toulouse également, sur Montpellier.
Donc, vous voyez bien, il y a aussi des villes moyennes, hein, ou des petites villes, quoi.
Tout à fait. C'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on constate en fait que même si les besoins en termes quantitatifs sur ces petits territoires ruraux, c'est pas énorme, cependant l'effet levier que ça va entraîner sur le territoire, lui, peut être vraiment très important. Et on s'en rend compte parce que quand on travaille sur ces petits territoires, quand on fait nos comités de pilotage sur ces projets-là, c'est ça le comble. Tous les maires de l'intercommunalité sont là. On a même les entreprises qui viennent. Donc, il y a des attentes très, très fortes. Même si c'est pour développer 20, 25 logements, eh bien, c'est des 20, 25 logements qui sont vraiment attendus par tout.
Par le territoire.
Exactement.
Tous les acteurs du territoire.
Tout à fait.
Une résidence, une petite résidence de 30-40 logements, ça crée combien d'emplois pour l'association, pour gérer ces 30 chambres, on a besoin de quoi ? D'un gestionnaire, d'un animateur, d'un éducateur, d'un gestionnaire de logement. Comment fait-on pour que ça tourne ? J'imagine qu'il y a des responsables.
Tout à fait. Alors la cheville ouvrière, c'est ce qu'on appelle l'équipe socio-éducative, c'est-à-dire les travailleurs sociaux et les animateurs. C'est ça,
la base.
Qui permet de conduire le projet Habitat Jeune et de faire en sorte de ne pas uniquement faire du logement, mais bien faire ce dont j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les ambitions élevées, hein, que nous avons dans notre réseau, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes vers l'émancipation et l'autonomie.
L'émancipation, et donc de répondre à votre charte « Société confiante en son humanité ».
Exactement. Après, bien évidemment, il faut aussi avoir un soutien administratif, hein, de comptabilité, la gestion locative, l'entretien, la maintenance. Voilà. Donc, ce qui veut dire quand même que pour gérer une résidence d'une trentaine de logements,
oui,
qui est une petite résidence, il faut absolument que ça s'appuie sur une association qui gère déjà des résidences ou d'autres activités.
Pour avoir un effet de mutualisation, j'imagine.
Exactement.
En revanche, vous avez 80 appartements. Là, vous pouvez avoir une petite équipe, quoi.
Tout à fait. À 80 logements, on peut faire tourner une équipe ad hoc. Après, il faut bien avoir en tête aussi qu'en dessous de 80 logements, l'accueil des mineurs va être beaucoup plus compliqué. Parce que même si c'est pas obligatoire juridiquement, nous, on conseille fortement à l'Union régionale, à l'ensemble de nos adhérents, d'avoir de la veille de nuit quand on fait de l'accueil de
mineurs.
Quand
on fait l'accueil de mineurs.
Voilà. C'est pas obligatoire, hein, réglementairement, juridiquement. Il y a absolument aucune obligation. Cependant, il y a quand même un devoir aussi vis-à-vis de ces jeunes-là et des familles, hein, de ces jeunes-là. Donc, en dessous de 80 logements, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir de la veille de nuit parce que les veilleurs de nuit... La veille de nuit, 24 heures sur 24, il faut compter pas loin de 3,5 équivalents temps plein. Bon, vous comprenez bien que 3,5 équivalents temps plein en dessous de 80 logements, on peut pas se les payer, en fait. Hein, donc, ça devient très, très compliqué.
D'où les grandes associations qui postulent, ou en tout cas qui répondent à ces appels à projets pour avoir l'effet de taille, pourrait-on dire, pour répondre. Alors, on n'a pas oublié Mende, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Petite ville, bien entendu. Il y avait un projet sur deux cases-villes. Il est abouti, ça avance ou pas? C'est encore bloqué? Si j'ai quelques souvenirs, parce que c'est une ville dans laquelle il y a un peu d'industrie quand même, malgré tout.
Oui, tout à fait. Il y a toujours un projet à Decazeville. Après, ce projet, non, il n'est pas encore abouti, mais c'est le cas de tous nos projets. Aujourd'hui, c'est ce dont on parlait un peu en introduction avec la crise actuelle. C'est très, très compliqué de faire aboutir des projets. Vous l'avez vu, on a des projets sur plein d'endroits de la région, sauf que tous les projets sont un peu à la peine aujourd'hui. On a des coûts de construction qui ont explosé, des coûts de foncier qui ont également explosé, hein, notamment en vue de la politique du zéro artificialisation net, qui est une très bonne politique. Cependant, ça a un effet tout de suite. C'est-à-dire qu'on a une inflation sur les coûts fonciers, auxquels s'ajoute l'inflation des coûts de la construction et des matériaux, auxquels s'ajoute le taux du livret A qui nous permet d'emprunter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les bailleurs sociaux qui sont à la peine, hein, qui eux-mêmes sont très très impactés dans la mesure où il y a eu beaucoup de ponctions de l'État par ailleurs, hein, sur les fonds propres des bailleurs sociaux. Donc c'est nos partenaires, hein, sur ces opérations. Et donc, c'est aujourd'hui très compliqué d'équilibrer dans la mesure où, par ailleurs, on a, comme on l'indiquait tout à l'heure, c'est du logement très social, avec par ailleurs une équipe qu'il faut financer. Donc, on a des modèles économiques qui sont extrêmement contraints, avec très peu de marge. Donc, c'est aujourd'hui très compliqué de faire aboutir des projets de développement.
Avant de continuer plus loin sur le logement social et l'urage, je vous propose de partir dans les îles, particulièrement aux Caraïbes, et puis on va danser une salsa.
Palabra grata, no encuentro palabra grata.
Esprit Occitanie Sentinelle d'Humanité, toujours avec la déléguée régionale de l'Urage, Union Régionale Habitat Jeune, Madame Émilie Taberly. Madame Taberly, votre institution est une association, l'OM 1901, issue de l'économie sociale et solidaire. Comment fonctionne votre institution? Il y a une assemblée générale, il y a des adhérents, une assemblée générale, j'imagine une fois par an, vous avez un conseil d'administration, vous avez un bureau, et vous êtes à la tête de tout cela, vous avez quand même beaucoup de pouvoir, hein?
Alors, non, c'est mon président qui est à la tête de tout cela, c'est pas moi.
Je vous taquine, je vous taquine.
Donc on forme un bon duo, je pense qu'on travaille très très bien ensemble. Et oui, on a une assemblée générale, mais chez nous on a une petite particularité, c'est qu'on a souhaité que l'assemblée générale en fait soit la même chose que le conseil d'administration. On est presque en assemblée générale permanente en réalité. D'accord. En conseil d'administration.
Le conseil d'administration qui se réunit tous les trimestres à peu près.
Oui, à peu près.
Oui,
trois fois par an, on va dire.
Donc c'est une bonne démocratie sociale, pourrait-on dire.
Tout à fait. Le bureau qui lui se réunit une fois par mois pour le coup, pour le suivi des dossiers, et donc l'ensemble de nos associations sont représentées dans notre conseil d'administration. Avec deux représentants, sachant que par ailleurs, quelle que soit la taille de l'association, parce que comme vous l'avez compris tout à l'heure, on a des très grosses associations qui gèrent énormément d'établissements et des toutes petites associations, c'est une association, une voix. Donc chaque association...
Donc une association, une voix.
Exactement. Deux représentants, mais une seule voix, peu importe leur taille. Et on essaye aussi au bureau d'avoir une représentation de la diversité aussi des associations gestionnaires d'offres habitat jeune.
Votre rôle, c'est de préparer les délibérations en tant que délégué régional, de présenter les dossiers. Et bien entendu, si c'est secret, je ne veux pas que vous puissiez en direct parler des choses secrètes, mais quels sont les dossiers que vous traitez en CA? Est-ce que c'est votre rôle de les préparer ou faire le nécessaire pour qu'il y ait une délibération à la fin, donc préparation de cette vie démocratique?
Oui, tout à fait, ça fait partie de mon rôle, mais c'est un rôle que je ne mène pas seul, tous les dossiers sont préparés avec le président et avec le bureau, hein, avant de les présenter en conseil d'administration. On traite beaucoup de choses. Au niveau de l'Union régionale, on a plusieurs missions, et donc c'est ça aussi qu'on présente au conseil d'administration, qu'on suit, mais aussi que le conseil d'administration va déterminer les différentes orientations stratégiques vers lesquelles notre association va aller. Donc on a tout un pan très important de notre action sur le plaidoyer. Donc la fonction politique de l'Union régionale pour faire en sorte que les jeunes soient pris en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques en région. Donc on siège dans beaucoup, beaucoup d'instances pour ce faire, que ce soit des instances d'ailleurs en lien avec le logement, mais aussi en lien avec le développement économique, la jeunesse, voilà, donc dans des lieux extrêmement divers. On a aussi une fonction d'animation, de montée en compétence de notre réseau. Donc on réunit les directeurs de nos associations de façon régulière.
Directeurs et directrices.
Bien sûr, pardon, directeur et directrice, tout à fait. L'ensemble des équipes socio-éducatives avec qui on travaille sur des thématiques annuelles chaque année pour les aider à faire face aux problématiques que les jeunes peuvent rencontrer. On a aussi tout un pan...
C'est-à-dire que vous êtes organisme de formation? Non.
Non, on n'a pas souhaité l'être.
D'accord.
On travaille avec des organismes
avec
de formation.
Avec des organismes de formation pour vos adhérents.
Exactement.
D'accord.
Pour
mais
nos
pas
adhérents.
Vous-même, pas...
Et pas, c'est pas forcément de la formation. On fait venir aussi des intervenants. Voilà. Donc c'est extrêmement variable en fonction des problématiques et des besoins, surtout de nos adhérents. On a aussi tout un volet où on essaye d'être le plus à l'écoute des problématiques des jeunes. Par exemple, au moment du Covid, on a eu beaucoup de nos associations qui nous ont dit qu'il y avait une tombée en fait des revenus des jeunes et donc une vraie problématique pour qu'ils puissent payer le reste à charge de leur logement. Donc on a tout de suite mobilisé la Fondation Abbé Pierre qui a accepté de nous aider et d'aider directement les jeunes. On a réussi à récolter plus de 100 000 euros directement pour les jeunes. De la
et
Fondation Abbé
fait,
Pierre.
Et vous avez fait quoi? Une distribution dans l'ensemble de votre réseau?
En fait,
réseau.
Les associations nous ont remonté les situations des jeunes
les
qui étaient en difficulté.
Les plus en difficulté.
Et on avait des sommes pour pouvoir faire en sorte de solvabiliser le logement, c'est-à-dire qu'ils puissent rester dans leur logement. Donc, grâce à la Fondation Abbé Pierre, qui a vraiment été à notre écoute à ce moment-là. J'en profite pour les remercier à nouveau, d'ailleurs. À ma connaissance, on est d'ailleurs la seule région qui a fait appel à la Fondation Abbé Pierre à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi révélateur de la précarité plus, malheureusement, qu'on rencontre les jeunes sur notre territoire régional. Et puis, au niveau de l'Union régionale, on a aussi tout un volant de missions d'accompagnement des projets de développement. Donc, on fait des études, comme je l'ai évoqué précédemment, mais on fait aussi de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va accompagner les maîtres d'ouvrage pour travailler à la création d'une nouvelle offre avec notamment l'ingénierie financière,
et là,
mais pas que.
Les salariés qui travaillent avec vous, vous mettez à disposition en fonction d'un temps limité pour mener le chantier.
Tout à fait.
Combien de personnes travaillent avec vous, Madame Taberly?
Nous sommes 5. On est une toute petite équipe. Oui, agile et professionnelle, mais petite.
Ah ouais, mais j'imagine que vous êtes des bons professionnels. Quels sont les CV des personnes qui travaillent avec vous?
Ils sont. Alors, on a.
Urbaniste, architecte.
Alors, on n'a pas d'architecte.
Sociologue.
Tout à fait. On a.
Géographe.
Deux géographes. On a une urbaniste et on a plutôt un profil qui vient de la sociologie.
D'accord.
Donc voilà, c'est assez varié, mais des profils qui correspondent parfaitement avec les actions qu'on mène en réalité.
Vous menez. Et vous-même, quel est votre parcours, si ce n'est pas trop indiscret, votre parcours académique? D'ailleurs, la question est vraie, comment arrive-t-on à la tête d'une délégation régionale de Habitat Jeune? C'est le hasard?
Alors, en partie, comme tout le monde.
En partie,
mais
oui.
Pas que. Je pense que Moi, j'ai l'éducation populaire chevillée au corps. Mon père, déjà, quand j'étais petite fille, était militant de l'école laïque et dans un patronage. Donc voilà, j'ai vraiment été bercée par les valeurs de l'éducation populaire qui sont pour moi extrêmement importantes. Et c'est aussi le cas de la question de la lutte contre la pauvreté qui m'anime beaucoup. Après, il y a bien évidemment une part de chance, hein, comme tout le monde. Moi, j'ai commencé par faire des études extrêmement scientifique, donc les sciences dures. Hein. J'ai une maîtrise, à l'époque on appelait ça maîtrise, ça, c'est un bac plus 4 de biologie écotoxicologie. Et ensuite j'ai poursuivi...
Alors c'est vrai que passer de la biologie...
Ah oui.
Vous me direz, c'est l'apprentissage de la complexité. Le logement, c'est pour le moins complexe.
Oui, et puis l'esprit de synthèse aussi. Hein. Je pense que ça m'aide beaucoup pour avoir des visions globales et analytiques des situations. Ma formation de scientifique m'aide beaucoup. Et j'ai poursuivi par un bac plus 5, à l'époque ça s'appelait Master 2, je ne sais pas comment
oui,
ça s'appelle
maintenant. Oui, Master 2 aujourd'hui, oui.
Beaucoup plus généraliste sur le développement local, où là j'ai pu m'essayer aux sciences dites molles, que sont la sociologie, la géographie, qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et donc j'ai commencé d'abord, moi, dans des bureaux d'études en étant écotoxicologue, donc plutôt sur ma formation initiale. Et puis ensuite, très, très vite, j'ai commencé à travailler dans des associations de développement local à Bordeaux, puis à la Chambre régionale de l'économie sociale à Marseille, avant de venir à Toulouse. Donc ça faisait déjà, avant même d'être à Toulouse, ça faisait déjà un moment que j'œuvrais sur, en tout cas, le secteur associatif.
Et sur toutes les problématiques liées au social, parce que souvent, il y a des pathologies, il y a des difficultés, et on voit bien que l'entrée des difficultés, c'est le logement, quoi. Quand on est à la rue, quand il y a un problème de drogue, d'addictologie, la question du logement est importante. Le budget de votre association, Urage Occitanie, c'est combien?
On est entre 450 et 500 000 euros par an.
Et vous êtes le financement, c'est uniquement les adhésions? Non, vous
très
avez
très loin de là, très très loin de là. On est à moins de 20% d'adhésion sur
notre
budget.
C'est les cotisations, pourrait-on dire, c'est
voilà.
Ça, les cotisations des associations.
C'est aujourd'hui
le reste,
la minorité.
Vous allez chercher votre...
Le reste, c'est les études, hein,
que
j'évoquais
que
tout à l'heure. Voilà. Donc, ce sont les collectivités locales. Ce sont aussi les accompagnements à maîtrise d'ouvrage, où là, ce sont les bailleurs sociaux.
C'est les bailleurs
ou les maîtres d'ouvrage eux-mêmes
qui
nous financent. Mais en fait, c'est pas eux qui nous financent, parce que ces coûts sont réimpactés dans les prix de revient des opérations. Donc en réalité, ils sont étalés sur 40 ans, quoi, hein, le temps des opérations. Et puis on a aussi des subventions, hein, la région en premier lieu, mais également l'État ou les CAF qui nous soutiennent aussi pour justement toutes les actions qu'on mène auprès des équipes socio-éducatives, des montées en compétences. Mmh. On a plus d'une quarantaine de financeurs différents. Hein. Sur des montants qui peuvent aller de 500 euros jusqu'à 30 000.
30 000 euros, donc en fonction. On arrive au terme de notre émission. Vous avez vu, Madame Taberly, une heure pour parler du social et du logement social. Ça passe très vite et on a, j'imagine, beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui en Occitanie pour aller plus loin, comme nous disons souvent, plus loin dans le social, améliorer cette situation du logement qui me préoccupe? J'ai démarré l'émission en disant que c'est la future bombe sociale. Nous y sommes pas loin, quoi.
Oui, alors malheureusement, je ne suis pas sûre que les solutions, on va les trouver en Occitanie. Le logement, c'est d'abord une compétence de l'État. Force est de constater qu'il y a un désengagement de l'État depuis toutes les dernières années hein, sur la question du logement, qui est finalement un peu plus considéré comme du domaine du privé plutôt qu'une affaire d'État. Sauf que c'est une affaire d'État, le logement, parce que comme vous l'avez très bien dit... va avec le logement, les questions de l'emploi. On peut pas avoir d'emploi sans avoir un logement, mais aussi de la santé quand on est dans des logements qui sont fortement dégradés. Et on en a, hein, en région Occitanie, on a plus d'11% de logements qui sont F et G.
Ce n'est pas une légende urbaine quand on dit qu'il y a parfois des apprentis qui dorment dans leur voiture parce que sur le lieu de stage ou le lieu d'apprentissage, il n'y a pas de logement. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une réalité. Elle est cruelle, elle est dure, mais c'est une réalité.
Tout à fait, c'est une réalité. Et d'ailleurs, pour ce qui est des personnes sans domicile fixe, leur nombre ont doublé en France en 10 ans, ce qui est quand même, je trouve, un constat d'échec collectif. C'est pour ça, pour répondre à votre question plus directement, je suis pas sûre que ça soit complètement en Occitanie qu'on peut avoir ces réponses. Je pense que l'État doit aussi se saisir de cette question. Il est d'ailleurs sollicité par tous les acteurs du secteur, hein, c'est ce que je disais en introduction. Après, en Occitanie, on peut aussi faire des choses. Il faut que les maires, les élus se mobilisent sur cette question-là. Quand on est maire, on a plusieurs choix. On peut aussi avoir des démarches volontaristes pour créer des offres, et notamment pour ceux qui, sans ces offres dédiées, ne trouveraient pas d'autres solutions, donc notamment pour les précaires, et les jeunes font partie des personnes précaires dans notre région. Il y a aussi le conseil régional. Aujourd'hui, le conseil régional a une politique d'intervention sur le logement des jeunes, et c'est une très bonne chose parce que toutes les régions ne l'ont pas. Sauf qu'au vu de la crise actuelle et des difficultés qu'on a à porter des projets, il serait certainement une bonne idée de faire en sorte que l'intervention du conseil régional soit multipliée, ou en tout cas revalorisée, pour faire en sorte de passer cette crise-là et d'arriver à concrétiser l'ensemble des projets que nous avons aujourd'hui en réflexion.
Vous m'avez dit 15 ans. À l'ouvrage, les 15 prochaines années également à l'ouvrage, et ensuite une destinée nationale, où vous avez d'autres projets?
Alors, je suis bien à la peine de répondre à cette question. Vous savez, vous serez vous dans 15 ans? Parce qu'alors, moi pas, je me projette pas du tout. Je vous avoue que j'essaye de mener à bien les missions qui me sont confiées et puis aussi qui m'animent chaque jour. Ça me fait déjà beaucoup de travail. Donc, j'avoue, je me projette pas du tout, dans 15 ans.
Bien, Madame Tabrelli, merci. Merci pour votre authenticité, votre militantisme pour la cause sociale du logement. Continuez à travailler avec enthousiasme. Les jeunes de notre région méritent des gens compétents comme vous pour trouver des solutions dans le logement. Merci, à très bientôt, Sentinelle d'Humanité. À la semaine prochaine.